Ouais, t'as une belle barbe maintenant.
Bon.
Et Rebecca, elle aime bien, ça va? Pas
Oh,
trop?
ça va, elle en parle pas trop.
Ouais.
Ouais, pendant les 2 3 premières semaines, elle avait vraiment du mal même à me regarder, je crois. Là maintenant, ça va, ça s'est passé.
Salut Nathan.
Salut Niki!
Tu vas bien?
Ouais, merci. Et toi?
Proche du micro là. Très bien,
Ouais,
merci.
excuse-moi. Bonjour.
Oh là là. T'as passé une bonne semaine?
Bah oui, j'ai passé une bonne semaine, merci. Ouais. Et toi, comment ça va?
Très bien, merci.
Bonne semaine?
Bonne semaine. Bienvenue à notre podcast Refaire le monde en 20 minutes avec Niki.
Et Nathan?
Et nous nous réunirons toutes les semaines pour parler un peu de tout et n'importe quoi, des sujets sérieux comme des sujets pas sérieux. La raison pourquoi j'ai commencé ce podcast, on a commencé ce podcast, et peut-être que tu ne le savais pas, Nathan, du coup je t'apprends quelque chose. C'est que,
Espèce de film.
en tant que personne introvertie, introvertie,
Intro.
et quelqu'un qui aime passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps seul, je suis un freelance qui passe tout son temps dans l'appartement tout seul, et ça me va très, très bien. Je suis quelqu'un qui n'a pas une facilité à parler en public. C'est surtout en français, j'ai du mal. Et du coup, ce podcast est pour moi un exercice pour parler en public plus facilement et vraiment avoir un moment toutes les semaines où je suis obligé de le faire.
Ouais.
Et du coup, comme ça, je suis obligé d'apprendre à faire cette chose que je pense est quelque chose d'assez un outil intéressant et particulièrement assez très très important dans notre société d'aujourd'hui de pouvoir parler en public, surtout pour quelqu'un qui a envie d'avoir un rôle dans les médias et envie de construire quelque chose de médiatique. Mais toi, Nathan, t'es aussi un introverti,
Ouais.
mais t'es quelqu'un qui a beaucoup plus de facilité à parler en public, c'est quelqu'un qui l'a fait depuis des, on peut dire, décennies maintenant peut-être?
Bah écoute, oui, depuis plus d'une décennie en tout cas.
Plus
Ouais,
d'une
donc
décennie.
je suis dans les décennies.
Dans les décennies de parler en public. Du coup, ma question pour toi cette semaine, c'est quelles sont tes recommandations si quelqu'un comme moi dirait apprends-moi à parler correctement en public comme tu le fais tellement bien, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu réponds?
Sois toi-même et sois la meilleure version de toi-même. Voilà, on a fini le podcast. Non, ça s'explique. Donc, le grand écueil beaucoup de personnes quand on commence à parler en public, et je dis vraiment on parce que j'étais absolument là-dedans, c'est de regarder les autres orateurs publics et de vouloir les imiter. Ceux qu'on aime le plus, ceux qui nous ont le plus parlé, ceux qui nous ont le plus. Voilà. Et de chercher à les imiter. Il y a ce processus d'imitation qui est là et qui n'est finalement, c'est pas du bon art oratoire de faire ça. Donc, commencer en étant à l'aise avec qui tu es, mais ça prend parfois du temps. Et ça passe, en fait, c'est presque parfois nécessaire de passer par la phase imitation avant de savoir qui tu es toi, en fait. Donc, c'est un petit peu comme pour toutes sortes d'autres choses. Quand tu apprends un instrument, tu dis, OK, bon, bah, j'aimerais bien apprendre à jouer comme tel et tel guitariste, etc. Et puis tu commences à jouer, tu te rends compte, ouais, mais c'est pas tout à fait moi, mais en faisant ça, en faisant cet exercice, eh ben, tu gagnes une aptitude en plus. Et c'est un petit peu comme si tu vas puiser dans le savoir-faire de quelqu'un d'autre et tu fais tout passer à la passoire. Il y a plein de trucs comme ça de ce qu'eux ils font, ça tombe naturellement, mais tu te retrouves avec un dépôt quand même de ce qu'il y a eux, mais tu te rends compte que ça t'appartient à toi aussi. Donc, j'ai rien contre le fait d'imiter, mais c'est pas là où tu vas en arriver. Ton objectif, c'est pas de te dire j'aime trop écouter un tel orateur public et de dire voilà, je veux être comme lui. Tu vois, tu ne seras pas Bernard Pivot parce que tu n'es pas lui. Tu peux être aussi bon que lui, mais tu seras différent. Donc ça c'est une première chose, ça c'est juste en termes de qui tu es en fait. Et c'est beaucoup de ça en fait, parler en public, c'est pas seulement ce que tu dis, c'est pas seulement comment tu le dis, c'est vraiment qui tu es en termes de comment est-ce que tu te présentes. Et donc ça veut dire, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à me mettre dans un certain moule en termes de discours public. Et puis, tout en essayant vraiment de les respecter, de respecter leur opinion, etc., et en essayant de me mettre comme eux, ou comme ils me demandaient de l'être. Et souvent, quand les gens me demandent de faire les choses d'une certaine manière, je me rends compte que c'est souvent en fait qu'ils sont en train de me demander de faire les choses plus comme eux sont en train de les faire. Et donc, c'est typiquement, il y a un exemple dans la Bible où il y a David qui veut attaquer Goliath. Et il y a le roi de l'armée qui dit, ok, bah, si tu veux attaquer Goliath, il faut que tu sois comme moi. Donc moi j'ai une grande armure et une grande épée. Tiens, prends la grande armure, prends la grande épée et je la mets sur toi. Et David il dit, ok, bon, bah, je vais le faire. Et il la met, et il se rend compte, mais c'est pas moi. L'armure n'est pas à ma taille, c'est trop lourd, j'ai pas l'habitude. L'épée, je sais même pas en utiliser. Donc il dit, tu sais quoi, je vais l'enlever. Et puis il va au bord du ruisseau, il prend 5 pierres et sa fronde. Parce que ça, il savait le faire et ça, c'était lui. Et pour le coup, il est plus efficace avec sa lance et sa fronde qu'il l'aurait été avec l'armure de Saül. Il est plus efficace avec sa lance et sa fronde que Saül l'aurait été avec son armure à lui. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, bah, qui est-ce que je suis? Donc il y a des fois, on m'a dit, mets plus de chemises. Et je dis, ok, bon, bah, je vais mettre des chemises à chaque fois. Et je suis là, je me rends compte. Non, il y a des jours où je ne suis pas en train d'être moi-même. J'aime bien porter des chemises. Il y a des fois où je veux en porter, mais je veux en porter à ma manière. Et les jours où je me sens de porter une chemise, et je ne vais pas les porter comme les gens me demandent de les porter, ou le même type de chemise que les gens me demandent de. Ou bien les gens m'ont dit, mais parle plus lentement. Et je suis là et j'essaye de parler plus lentement, mais à nouveau, ce n'est pas moi. Et donc, il y a une façon pour moi d'apprendre à développer comment est-ce que je fais pour être quelqu'un qui parle vite. Tout en réussissant à ne pas perdre les gens. Et donc vraiment pour moi, c'est tout ce processus d'apprendre à être qui je suis d'abord, mais d'être la meilleure version de qui je suis. Donc là, on est en train de discuter entre nous. Je fais un petit effort pour parler un peu mieux que je parlerais si on parlait juste entre nous, mais pas un effort aussi grand que si j'avais un micro devant 150 personnes. Parce qu'il y a une façon de parler qui est différente, même en étant soi-même. Donc je dis être la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire bien se présenter, commencer en se tenant droit. La posture de ce qu'on fait avec nos mains est extrêmement importante dans le discours public. Donc si tu mets ta main dans ta poche, fais-le intentionnellement. Fais-le pour une raison. Si
Pour
tu...
être le pasteur hip qui parle avec la main dans sa poche comme ça.
Exactement. Ouais. Ou parce que tu es en train de dire quelque chose qui peut paraître excessivement dur ou excessivement activiste, ou je sais pas quoi, être dans l'activisme. Et donc, pour ne pas sembler trop virulent pendant que tu le dis, eh ben une main dans la poche, ça passe très bien. Si au contraire, tu es en train d'expliquer quelque chose d'un petit peu profond, où tu vas loin un petit peu, tu pousses un argument très loin, ça peut être très sec, très théorique pour les gens, eh ben, de justement avoir des mains qui sont plus actives. Mais pareil, un truc que je retrouve pour beaucoup quand ils utilisent leurs mains, c'est qu'ils ont toujours un même geste. Donc ils font, tu sais, allez, les mains vers le haut, puis ils redescendent, puis les mains vers le haut, et puis ils redescendent, puis les mains vers le haut. Et si tu remarques, hein, si tu regardes certains orateurs, tu te rends compte que ça devient très 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 agaçant. La première fois que je l'ai remarqué, en fait, c'est que quelqu'un faisait une vidéo devant une caméra, et en fait, ses mains rentraient dans le champ, et elles étaient plus, elles rentraient dans le champ. Et je me disais, il est gentil, tu vois, il essaye de faire un effort de parler avec ses mains, mais oh.
Toi, t'as ça aussi. Hein. Je pense que c'est tes deux mains ensemble comme ça, et puis tu fais genre une timeline avec tes mains,
Ouais,
c'est ça?
ça c'est un de mes trucs, mais j'essaie d'en avoir plusieurs et d'essayer d'avoir des trucs qui vont avec ce que je fais. Donc
Le point.
le point vers l'avant, je l'aime bien celui-là. Les mains grandes ouvertes aussi,
Et les yeux
je
fermés, tu
l'aime
fais ça de
bien.
temps en temps.
Ouais, et puis
Quand tu rentres dans un truc sérieux,
c'est
tu
ça,
vois les mains levées et les trucs
les
des.
mains levées, les yeux fermés, ou bien les deux poings comme ça ensemble, en train de faire ma, tu sais, un petit peu le geste de l'italien qui fait ma, mais sauf que c'est les poings fermés, donc c'est un petit comme ça, tu vois,
Position de boxeur un peu.
ouais, c'est un petit peu position de boxeur. Donc il y a toutes sortes de trucs comme ça à faire, toutes sortes il y a un éventail de choses qu'on peut faire avec nos mains. Et c'est bien de savoir faire que ça aille avec ce qu'on dit. Donc ça, c'est un petit peu l'usage des mains. Ensuite, au niveau de la voix, il y a un truc qui est très important, c'est de savoir déclamer. Donc c'est de savoir commencer une phrase en parlant fort. Donc souvent, dans nos phrases, on monte en intensité. Mais si tu veux pouvoir dire quelque chose avec beaucoup d'impact, Il faut savoir, et c'est pas facile à faire, hein, il y a vraiment un exercice à faire au niveau de sa cage thoracique pour pouvoir emmagasiner beaucoup d'air et l'expulser d'un coup en fait. Donc comme ça, tu vas pouvoir déclamer. Commencer, mais faut être intentionnel dans le fait de le faire. Pour quelqu'un qui a ce petit bégaiement que moi j'ai souvent, ce qu'il faut parfois faire, c'est juste se poser, être intentionnel sur ce que tu vas dire ensuite, bien le penser et puis avancer. Donc ça, c'est un petit peu comment poser sa voix. Et puis une autre chose que je dirais, c'est au niveau de la cadence de ta voix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des gens qui vont soit avoir une cadence qui est très saccadée. Donc ils vont dire une phrase, et puis ils vont dire une autre phrase, et puis ils vont dire une autre phrase. Puis ils vont dire une autre phrase. Et donc c'est très saccadé. Et d'autres personnes, ça va être comme une sorte de flot continu de paroles qui ne s'arrête jamais. Et parfois c'est au même rythme. Donc il y a deux choses à faire là-dedans. C'est à la fois savoir alterner entre des phrases courtes et des phrases longues. Et puis c'est aussi de savoir quand est-ce que tu prends, et donc quand est-ce que tu prends une pause. La longueur des pauses aussi. De façon exceptionnelle, je vais parfois prendre des pauses de 10 secondes. Dans ce que je vais dire. Et je sais que c'est long. Et donc je vais compter les 10 secondes dans ma tête. Parce que je sais que, okay, à ce moment-là, je veux vraiment marquer le temps. Et comme le temps va sembler tellement long, j'aurai l'impression de ne pas parler pendant 1 minute. Il faut que je compte mes 10 secondes. Sinon, je vais recommencer à parler beaucoup plus vite que ce que j'avais voulu faire à la base au niveau de l'intention. Donc ouais, à la fois, donc phrases longues, phrases courtes, pas que des phrases courtes ou pas que des phrases longues, des pauses de taille différente entre les phrases, et puis il y a aussi la hauteur de ta voix. Donc c'est vraiment savoir à des moments parler fort, parler vite, vraiment y aller, vraiment rentrer dans ton truc, et puis à d'autres moments vraiment te dire je vais te parler intimement, ça va être tout calme, tout bas, etc., etc. Et de savoir quand est-ce que tu fais ces choses. Moi sur mes notes, ce que je fais parfois, c'est que quand je sais que je vais vraiment monter en intensité, c'est que je fais une ligne rouge qui va vers le haut. Admettons que j'ai un paragraphe, mais sur tout mon paragraphe, j'ai une ligne qui la traverse, boum, qui va vers le haut, en me disant il faut que tu ailles vers le haut. Et puis si je veux dire les choses doucement, je prends du vert et puis je fais une ligne vers le bas en vert et puis je la garde basse en dessous du truc. Et puis parfois, tu veux finir ce que tu es en train de dire vraiment sur une sorte de punchline à la fin. Ce que je fais sur mes notes, c'est que je l'encadre et puis je l'encadre et puis je l'encadre genre 3-4 fois. Ou parfois, tu sais, je fais une sorte de nuage pointu autour, et puis ça me fait me dire, c'est là-dessus où je veux en venir. Il faut que je monte, 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 mais pas que je monte trop, que je me garde encore de la place, que je me garde encore de la marge pour arriver et pour puncher. Donc, ça, c'est juste au niveau de la voix, mais plus important que tout ça, vraiment plus important que tout ça, c'est qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as un discours qui est sensé et qui est résonné en tête? Donc moi avec le temps j'ai appris à le faire un petit peu sur le tas. Hein, tu sais quand tu commences à faire des commentaires composés, t'écris ton plan à côté et puis après tu fais ton commentaire composé. Bah là on fait changer le monde dans 20 minutes et on n'a aucune prépa. Donc j'ai pas eu le temps de me préparer, mais dans ma tête très très vite je me suis dit bah, je vais garder le plus important pour la fin. D'accord? Il y a des fois faut dire le plus important au début, il y a des fois faut dire le plus important à la fin. Et c'est avec le temps que tu vas apprendre à découvrir. Souvent ce que je fais c'est que je garde le plus important pour la fin, quand le plus important n'est pas essentiel pour comprendre tout le reste. Mais parfois, je vais commencer avec le plus important, parce qu'on a besoin de ça, tu as besoin de poser cette plateforme, cette fondation, pour ensuite pouvoir bâtir le reste dessus. Mais il faut revenir sur la plateforme à la fin, en conclusion, pour dire, mais vraiment, c'est ça le plus important. Et vous avez vu au cours du reste du discours à quel point ça fait une différence. Donc, il faut savoir un petit peu, qu'est-ce qui est le plus important, où est-ce que tu le places. Souvent, c'est au début, souvent, c'est à la fin. Si tu le places au début, reviens dessus à la fin. Très très important. Et donc d'avoir un discours qui est raisonné. Un point sur lequel il faut encore que je m'améliore, moi là-dessus, c'est que lorsque tu dis les différentes choses que tu les dis, que tu dis, c'est bien d'annoncer où est-ce que tu en es dans ton développement. Donc souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir trois grands points. Mais à l'intérieur du grand point, je vais avoir trois applications pratiques. Et je vais assez rarement dire, OK, donc sur ce point-ci, sur la fidélité, admettons sur la fidélité de Dieu, il y a trois choses qui sont importantes. Ça, ça et ça. Tu les dis en premier et comme ça, après, tu les déroules. Parce que je me retrouve souvent à faire, c'est que je vais dire premièrement l'amour de Dieu, deuxièmement la sainteté de Dieu, troisièmement la fidélité de Dieu. Sauf qu'après, je vais vouloir dire trois choses à l'intérieur de la fidélité de Dieu, et je vais me retrouver à dire premier, et je vais le dire et les gens vont passer dessus, parce que c'est un mot comme ça qui vient et que les gens se rendent compte, mais ils ne savent pas que tu vas dire un deuxièmement et un troisièmement. Et donc quand tu arrives à dire la deuxième chose que je voulais dire, les gens vont se dire, mais t'étais pas au troisième point déjà? Donc moi je suis pas très bon encore là-dessus, mais c'est bien de, si tu fais des sous-points ou des sous-listes à l'intérieur de ta grande liste, de la lister déjà en entier.
Ouais.
Pour éviter...
Présenter ton plan d'abord, quoi.
Voilà, c'est un petit peu présenter ton plan d'abord. Bah voilà, c'est un petit peu tous mes conseils sur parler en public.
Tu m'as vu parler en public.
Ouais.
À moi, qu'est-ce que tu me dis à moi personnellement pour m'améliorer?
Alors, à toi pour t'améliorer, punaise, j'ai pas prêté autant attention que je devrais la dernière fois parce que c'était un temps tellement fort qu'on passait spirituellement que voilà. Mais il y a une ou deux choses que je t'avais déjà dites, je pense. C'est d'une part, quand tu prends la parole en premier et vraiment tu t'es amélioré, hein, les deux trois fois que je t'ai vu le faire récemment, c'est vraiment de te poser, pose tes pieds par terre en appui. Et puis peut-être même mettre tes épaules en arrière avant de commencer à parler. Comme ça, les gens sont. T'attires l'attention des gens. En anglais, on dirait you command people's attention. Ça se dit pas en français de commander l'attention des gens. Mais c'est un petit peu en mode. Ah, souvent, il y a des gens qui vont parler. Les gens vont pas faire attention. Mais il y a des fois où une personne parle et c'est du genre tout le monde sait instinctivement « Ah, il faut que j'entende, il faut que j'écoute ce que cette personne est sur le point de dire. » Personne ne savait que tu allais présider. Donc personne ne pouvait se dire « Ah, il faut que j'attende la voix de Nikki pour savoir que j'arrête ma conversation et que je viens m'installer pour le début de la célébration. » Donc tu as très bien fait, en plus tu avais un micro, ce qui aide aussi, mais tu as très bien fait pour commander l'attention des gens, si je reprends l'expression anglaise. Donc là-dessus, j'ai vu un vrai point d'amélioration, mais je t'encourage à continuer à le faire. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, et ça, c'est vraiment avec le temps, c'est une sorte de richesse de vocabulaire. Et c'est pas facile, hein. Et souvent, il y a des gens qui ont plus de facilité avec ça et d'autres qui l'ont moins. Et j'ai l'impression que tu as moins de facilité là-dedans que moi. Et c'est ni positif ni négatif. Je peux pas te le reprocher parce que moi, ça me vient tellement naturellement. J'ai pas eu à vraiment travailler à mon éventail de vocabulaire et à ma facilité à trouver le bon mot. C'est aussi pour ça que je peux être interprète français anglais. C'est pour ça que je fais ça de métier, parce que les mots me viennent assez facilement. Mais donc le conseil que je te donnerais, c'est vraiment de te préparer en avance, de te préparer en avance pour les temps que tu sais où tu vas intervenir. Donc il y a des moments comme ça où et si tu te prépares en avance, les mots vont venir beaucoup plus facilement. La prise de parole, c'est très important, donc de savoir qu'est-ce que tu vas dire quand tu prends la parole. Et les points qui vont être compliqués à naviguer. Même moi, encore aujourd'hui, hein, les moments où mes notes sont les plus pleines, c'est les moments où je vais dire des choses qui sont les plus compliquées, où je vais dire les choses qui vont le moins faire plaisir aux gens. Parce que typiquement là-dessus, je vais soit me défiler, soit je vais me dire qu'est-ce que les gens sont en train de penser, ça va créer une sorte de bug dans ma tête où je vais perdre le fil de ma pensée. Donc ouais, si jamais tu vas devoir parler de choses qui sont un petit peu en décalage avec ce dont on a l'habitude de parler, vraiment prépare-toi à l'avance. Donc j'ai remarqué ça, moi, les quelques fois où on a parlé d'inviter les gens à mettre de l'argent dans l'offrande. C'est pas facile culturellement d'encourager les gens à donner. Moi, avec le temps, je m'y suis habitué. J'avoue que, d'une part, je sais que je suis parfaitement au clair sur pourquoi on le fait. Je suis parfaitement au clair sur le fait qu'on utilise bien l'argent qui est donné à l'Église, donc j'ai aucun problème de demander aux gens de donner leur argent. Je sais que c'est pas facile au début. On n'a pas l'habitude de faire ça, c'est pas culturellement... C'est pas un truc que tu ferais en soirée, tu vois. C'est genre, t'as pas 5 euros à me lâcher, tu vas jamais... Enfin, c'est pas un sujet de conversation habituel. Et on est assez privé par rapport à l'argent, par rapport même à nos revenus et tout ça. Donc parler d'argent, c'est pas facile, donc prépare-toi. Et ça peut être l'argent, ça peut être d'autres choses, quoi. Quand c'est des choses que j'ai à dire sur la sexualité ou quoi que ce soit, je le prépare vraiment bien. Quand je vais finir mon message et que j'appelle les gens à répondre au message, je le prépare et je le note beaucoup plus et je l'exerce et je le répète et je le répète et je le répète. Pareil, quand je vais faire une intro qui doit être punchy, percutante, je la répète particulièrement plus. Donc voilà, Je dirais ça, mais il y a peut-être des choses que tu peux faire pour travailler à l'étendue de ton vocabulaire. Si tu sais qu'il y a des champs sémantiques qui vont revenir souvent, on veut souvent encourager les gens à participer à quelque chose ou à s'inscrire pour quelque chose, et c'est bien de trouver un éventail de vocabulaire plus large que ça va être génial. Parce que c'est le mot qui nous vient tellement facilement, et je sais que moi c'est pareil, mais de réussir à se dire, ok, je peux pas juste dire aux gens ça va être génial. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que ça va être génial. Et si tu réfléchis à pourquoi ça va être génial, eh ben tel week-end va être particulièrement inspirant. Tel week-end va être particulièrement fun. Tel week-end va être particulièrement reposant. Tel événement va être particulièrement utile. Et donc de trouver des mots comme ça, si on va au-delà de pourquoi est-ce que ça va être génial. On réfléchit à pourquoi en fait c'est génial. Et ça veut dire que tu peux tellement plus facilement inviter les gens à répondre à ce que tu vas dire. C'est pas pour toi en particulier, mais c'est juste un autre truc de façon générale. C'est que faisons appel à l'intellect des gens, à l'émotion des gens, à la volonté des gens. Et c'est particulièrement. Enfin, on peut parfois complètement oublier le fait de faire appel à l'intellect des gens et de pouvoir dire aux gens pourquoi est-ce que ça va être bien, pourquoi est-ce que ça va être génial. Bah, tu es en train de faire appel à leur intellect et pas juste ça va être trop bien, on va tous s'éclater. Là, tu fais plus appel aux émotions, ce qui est aussi valable. On peut pas simplement dire alors voici les 10 raisons pour lesquelles vous devez. Non, non, non. Il faut aussi parler aux émotions et puis ensuite à la volonté. Et donc maintenant, je t'invite, sors ton agenda, prends une résolution de le faire, etc. Donc, y a ça. Et puis, je dirais aussi pour toi, et je t'ai vu le faire dimanche dernier, ce qui était super encourageant, mais c'est d'avoir des moments où tu te libères complètement. Et il y a un moment donné, t'as prié ou t'as lu un passage
J'ai
de
lu
la
un passage,
Bible et tu t'es vraiment excité dessus, quoi. Et tu nous as emmenés avec toi. Vraiment, et tu le fais bien. Il y a un moment donné où, presque en lisant, tu t'es presque emballé. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu cours en descente. Il y a un moment donné où tu dis oh là là, tu cours tellement vite que brrr, tes jambes t'emportent. J'ai l'impression qu'il y a un petit moment comme ça qui est arrivé. Donc voilà, fais attention à ça. Mais c'était très très bien, quoi. Donc je dirais pour moi, continue à t'exercer. Et c'est vraiment avec l'exercice en s'exerçant qu'on va s'améliorer, quoi. C'est un forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a rien qui remplace ça. Donc le fait que tu te donnes des opportunités pour le faire, c'est déjà un super bon point. Et d'ici 10 ans, tu seras forcément meilleur que quelqu'un qui est naturellement bon dedans et très extraverti, etc. et qui rêve de ça depuis qu'il est petit, mais qui le fait que depuis un an. De toute façon. Donc voilà, les petits nouveaux, les petits jeunes, ils n'arriveront pas à la cheville, même s'ils sont doués comme pas possible. Parce que le fait de travailler dur, bat toujours le talent si le talent ne travaille pas dur.
Ouais, c'est
Donc,
sûr. Très
ouais.
bien. Merci beaucoup, Nathan. Je vais garder tout ça en tête pour la
De
prochaine
rien.
fois.
C'était monologue aujourd'hui,
Ouais, oui, bah ça.
hein.
Faut l'avoir. Ouais.
Bon,
Parfois.
on a eu monologue aussi quand tu m'as enseigné la vie sur les smartphones.
Exactement, c'est ce que je pensais. C'est bien d'avoir. J'aime bien ce format où tu m'apprends quelque chose, je t'apprends quelque chose. Merci beaucoup Nathan, on se retrouve la semaine prochaine. On te retrouve où sur le net?
Sur facebook.com/NathanLambert.
Et moi on se retrouve sur Twitter, sur Body95. Merci beaucoup à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao!
Ciao!